La lignée royale la plus sacrée de toute l'histoire biblique, bah, elle n'a pas commencé par un miracle de pureté immaculée.
Oh non, loin de là. Mais vraiment pas. En fait, elle a commencé parce qu'une veuve désespérée a décidé de se déguiser en prostituée pour piéger son beau-père sur le bord d'une route poussiéreuse.
C'est le genre de détail qu'on omet soigneusement de raconter à l'école du dimanche, ça.
Exactement, on préfère garder ça sous le tapis. Mais quand on se penche sérieusement sur les textes anciens, et particulièrement sur le livre de la Genèse, l'image d'Épinal de la famille parfaite qui marche unie vers une destinée glorieuse, bah elle vole complètement en éclats.
Complètement, c'est fascinant à quel point c'est brut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre exploration nous emmène au cœur de la session 21 des enseignements du docteur Kenneth Matthews, qui décortique les chapitres 37 et 38 de la Genèse.
Tout à fait. C'est vraiment l'introduction de ce que le texte appelle les générations de Jacob.
Voilà, le tout début de l'histoire de Joseph et de ses frères. Bon, décortiquons tout ça. L'objectif de cette analyse approfondie, c'est vraiment de comprendre comment une poudrière de tromperie, de jalousie féroce et de trahison a pu poser les fondations d'une nation entière, contre toute attente.
C'est un paradoxe incroyable. Mais pour bien saisir l'ampleur de ce chaos, il faut d'abord, je pense, poser le cadre théologique et narratif de cette section.
Ouais, le contexte global.
Exactement. Le récit, il est fondamentalement orienté vers l'avenir. En toile de fond, on a constamment cette grande promesse qu'avait été faite à Abraham.
La promesse d'une terre et d'une descendance innombrable.
C'est ça. Sauf que, et c'est ce que pointe le docteur Matthews, il y a un changement d'atmosphère radical par rapport au chapitre précédent.
Un changement de ton, pourrait dire ?
Plus qu'un changement de ton. Dans les histoires d'Abraham ou d'Isaac, le texte regorgeait de théophanie. Tu sais, ces apparitions directes où la divinité communiquait face à face avec les patriarches.
Dieu qui apparaît au bord du chemin, qui parle directement.
Oui, voilà. Mais avec l'arrivée de la génération de Joseph, ces apparitions cessent net. C'est terminé.
Plus rien. Le silence radio.
Un profond silence divin semble s'installer, ouais. Et la communication se limite désormais uniquement à des rêves.
Et un rêve, ben, par définition, c'est ambigu.
C'est toute l'essence d'un rêve. Ça exige une interprétation, un déchiffrage. Et ce brouillard moral, ça force les personnages à avancer à l'aveugle.
Ça enlève le filet de sécurité, en fait.
Totalement. Ça révèle leur véritable nature, sans aucun guide clair.
Et cette absence de filet de sécurité, elle est flagrante quand on regarde les étincelles allumées par le patriarche lui-même, Jacob.
Oh là là, Jacob.
La situation de départ, c'est littéralement un manuel de ce qu'il ne faut pas faire en matière de parentalité.
Le pire exemple possible.
C'est ça. On a Joseph, 17 ans. Il est le fils de Rachel, la femme que Jacob a toujours préférée.
Ce qui le place d'office sur un piédestal écrasant par rapport aux autres fils, ce n'est des servantes Bilha et Zilpa ou même de Léa.
Et au texte, d'emblée, précise que cet adolescent ramène un mauvais rapport sur ses demi-frères.
C'est un rapporteur, on va le dire clairement.
Ben oui. Et Jacob, face à ces tensions qui sont pourtant évidentes, décide d'offrir à ce fils spécifique une tunique richement ornée. Un vêtement extrêmement distinctif.
Le fameux manteau multicolore de la culture populaire.
Ouais, mais si on veut transposer la violence symbolique de ce geste aujourd'hui, c'est un peu comme si le PDG d'une grande boîte réunisse tous ses cadres supérieurs.
Ces vétérans qui font tourner l'usine depuis 20 ans.
Exactement. Il les réunit tous pour remettre publiquement les clés du bureau exécutif et le contrôle total des opérations au jeune stagiaire de 17 ans.
Juste parce que c'est son chouchou. C'est d'une cruauté managériale absolue.
Sous les yeux de tout le monde, ce vêtement, c'est pas qu'un joli cadeau d'anniversaire, c'est une déclaration d'autorité statutaire.
C'est ça. Et d'ailleurs, ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont le docteur Matthews déconstruit l'image traditionnelle de Joseph.
Ah oui, parce qu'on a l'habitude de le voir comme le bon gars parfait.
Exactement. Il y a une très longue tradition d'interprètes qui a voulu lisser ce personnage, en faire une sorte de figure christique avant l'heure, le croyant pur et idéalisé qui subit l'injustice en silence.
Sauf que le texte hébreu dit pas ça du tout.
Pas du tout. La réalité des peintes est beaucoup plus rugueuse. Joseph est un personnage profondément imparfait. À 17 ans, son arrogance, elle est palpable.
Ah oui, quand il fait ses rêves...
Ouais, les gerbes de blé représentant ses frères qui se prosternent devant la sienne. Puis le soleil, la lune et les 11 étoiles qui s'inclinent devant lui.
Il garde pas ça pour lui.
Non, il manque totalement d'humilité. Il l'expose, il s'en vante devant ceux-là même qu'il est censé dominer.
Au point que même Jacob, qui pourtant cultive ce favoritisme de manière outrancière, ben, il se sent obligé de le réprimander publiquement.
même s'il garde la chose à l'esprit, oui. Mais l'enseignement majeur ici de cette analyse, c'est que la lignée messianique se construit avec des individus orgueilleux et faillibles.
La perfection morale, c'est clairement pas un prérequis au plan divin. Mais, attends, on pourrait pas se dire qu'il y a une part de naïveté chez un gamin de 17 ans ? On pourrait presque plaider l'innocence sociale, non ?
Je comprends pourquoi on pourrait penser ça. Mais le contexte culturel de l'ancien Proche-Orient ne permet pas vraiment cette excuse.
D'accord. C'est-à-dire ?
Dans une structure clanique patriarcale de cette époque, l'ordre de naissance dicte absolument tout. L'héritage, le respect, l'autorité financière...
Tout est codifié ?
Tout. Alors, un jeune frère qui annonce publiquement la soumission totale de ses aînés et même de son père, c'est un acte de subversion sociale majeur.
C'est pas juste une gaffe d'ado.
Non, c'est perçu comme une menace directe contre l'ordre établi de la famille. C'est très grave.
Et cette menace, fatalement, elle crée une poudrière qui finit par exploser. Surtout quand la figure d'autorité, Jacob, n'est plus dans les parages pour surveiller.
Le chat parti, les souris dansent. Et de manière tragique.
Exactement. Jacob envoie le fameux jeune stagiaire vérifier le travail des frères qui font paître les troupeaux loin de la maison, du côté de Sichem. Joseph y va, et là, il se perd en chemin.
Et c'est là qu'on a un détail narratif vraiment étrange dans le texte.
Oui. Le texte mentionne qu'un homme mystérieux le trouve errant dans les champs et lui indique que ses frères sont partis plus au nord, vers Dothan.
Un changement de direction crucial.
Mais on a souvent tendance à lire ça comme un simple renseignement de parcours, tu sais. Mais dans la littérature biblique, un passant serviable qui surgit de nulle part pour rediriger le protagoniste vers son destin...
C'est rarement, pour ne pas dire jamais, une simple coïncidence.
Bah oui. C'est presque comme un GPS qui s'activerait tout seul pour t'envoyer délibérément au cœur d'un ouragan. Est-ce qu'on est face à un ange non identifié ?
C'est la grande question. Et le texte refuse catégoriquement de le confirmer. Et d'ailleurs, c'est précisément ce silence qui fait la force de la narration.
Ça laisse le mystère entier.
Délibérément entier. Il pourrait s'agir d'un simple passant ou d'un messager divin, mais du point de vue de l'analyse du docteur Matthews sur la providence narrative, ce personnage, il est la charnière invisible de toute l'histoire.
Sans lui, tout s'arrête.
Absolument. Sans cette indication précise vers Dothan, Joseph rebousse chemin, il rentre sain et sauf chez Jacob, et le récit est terminé. Il n'y a pas d'Égypte, pas d'Exode.
C'est fou quand on y pense.
C'est l'illustration parfaite de la providence divine opérant en coulisses. Le paradoxe est frappant. Dieu orchestre subtilement les événements pour accomplir son but ultime.
Qui sera de sauver le monde antique de la famine des années plus tard.
Voilà. Et pendant ce temps, les frères, eux, ils sont en chute libre absolue. Sur le plan moral, ils opèrent dans des ténèbres totales.
Ils pensent être aux commandes. Elle est d'une froideur glaçante. Les frères le voient arriver de loin avec cette fameuse tunique.
La cible sur le dos.
Littéralement. Le complot de meurtre, il est instantané. Ruben, l'aîné, il tente bien une manœuvre de sauvetage en suggérant de le jeter dans une citerne asséchée au lieu de le tuer directement.
Oui, l'analyse mentionne d'ailleurs que Ruben cherche probablement à regagner les faveurs de son père.
Ah oui, parce qu'il avait commis l'irréparable en couchant avec Bilha, la concubine de Jacob.
C'était une façon de se racheter.
Sauf que... Dès que Ruben a le dos tourné, Judas prend les rênes. Et l'argument de Judas, mon Dieu, il est d'un cynisme effrayant.
C'est terrible.
Il propose carrément de monétiser le meurtre. Il se dit pourquoi verser le sang quand on peut vendre son propre frère à une caravane de marchands de passage pour se faire un profit.
La traite humaine devient la solution pragmatique. C'est horrible.
Joseph est vendu. Point final. Et ensuite, on assiste à toute la mise en scène du deuil, les frères égorgent un animal, trempent la tunique ornée dans le sang et vont la présenter à leur père avec un culot monstre.
Et la réaction de Jacob face à ça, elle dépasse la simple tristesse.
Il est détruit. Le texte dit qu'il refuse d'être consolé. Il déclare vouloir descendre au séjour des morts, dans le Shiloh ou le Sheol, auprès de son fils.
Et là, il faut vraiment s'arrêter sur ce terme, hein, le Sheol. Parce que, pour l'auditoire de l'époque, c'est pas simplement un synonyme poétique pour dire « le cimetière ».
C'est beaucoup plus sombre que ça.
Dans la cosmologie israélite ancienne, le Sheol représente le monde souterrain des ombres. C'est un lieu de coupure totale avec le monde des vivants. Un endroit où même la louange à Dieu cesse d'exister.
C'est le vide absolu.
C'est ça. Quand Jacob dit qu'il descendra au Sheol en pleurant, il exprime un désespoir absolu, final, qu'aucune intervention terrestre ne pourra jamais apaiser. À ce stade du texte, la destruction de la famille est totalement consommée.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
Ah oui.
Parce qu'au moment précis où Joseph disparaît en Égypte, le récit opère une rupture que beaucoup de lecteurs trouvent incompréhensible. Le chapitre 38 s'ouvre et bam, on abandonne totalement Joseph.
On le laisse en chemin.
Pour se focaliser exclusivement sur Judas. Honnêtement, quand on lit ça, on pourrait croire à une maladresse éditoriale, genre un chapitre inséré au mauvais endroit.
C'est la réflexion classique. Mais le docteur Matthews démonte complètement cette idée.
C'est pas une erreur ?
Non, ce n'est pas une interruption maladroite, c'est un miroir thématique. Le test nous oblige en fait à regarder en face la décadence de l'homme qui vient d'orchestrer la vente de sa propre chair. On plonge la tête la première dans l'effondrement moral de Judas.
Et c'est un effondrement systématique ? Il s'éloigne physiquement et spirituellement de sa famille, du clan de l'Alliance ?
Il part chez les Cananéens.
Ouais.
Il s'y installe, il y prend femme et il a trois fils, Er, Onan et Shéla. L'auteur biblique, il s'encombre d'aucun détail psychologique sur l'aîné, Er.
Non, il se contente de dire qu'il était méchant aux yeux de l'Éternel.
Et paf, il est mis à mort divinement. C'est expéditif. Et c'est là qu'entre en jeu le deuxième fils, Onan. Et avec lui, le mécanisme de la coutume du Lévira. Et ça, c'est un point crucial qu'il faut absolument éclaircir pour quiconque écoute ça aujourd'hui.
Oui, parce que pour un esprit moderne, cette règle du Lévira semble archaïque, voire totalement absurde.
Mais dans l'ancien Proche-Orient, ce n'était pas du tout qu'une question de généalogie. C'était le seul et unique filet de sécurité sociale pour une veuve.
Et l'assurance vie de l'époque ?
Absolument. Sans mari et sans fils, une femme comme Tamar, la veuve de Er, elle perdait tout droit de propriété.
Toute source de revenus ?
Voilà, elle se retrouvait exposée à l'indigence totale, à la rue. Donc le devoir donnant, c'était de donner un héritier légal au nom de son frère défunt pour protéger cette femme et préserver les terres de la famille.
Sauf que Onan, très cyniquement, il refuse. Il refuse de créer un héritier qui ne porterait pas son propre nom, tout en profitant quand même sexuellement de Tamar.
C'est une hypocrisie égoïste monstrueuse qui finit par lui coûter la vie à lui aussi.
Dieu le fait mourir. Il ne reste alors que le plus jeune fils, Shéla. Et là, Judas, en tant que patriarche, il bloque tout le système.
Il panique.
Il est terrorisé à l'idée de perdre son petit dernier. Donc il renvoie Tamar chez son père sous prétexte que Shéla est trop jeune. Alors qu'en réalité, il a secrètement aucune intention de tenir sa promesse.
La trahison de Judas envers sa belle-fille est totale. Il utilise son autorité de patriarche pour se protéger, lui. Et en faisant ça, il condamne Tamar à un purgatoire social permanent.
Elle est coincée.
Elle n'est ni mariée, ni véritablement veuve avec la liberté de se remarier en dehors de la famille. Elle est captive d'un système corrompu par Judas.
Ouais, pour donner une image, c'est exactement comme une immense compagnie d'assurance moderne qui trouverait une clause microscopique au fin fond d'un contrat juste pour refuser de verser des indemnités à une victime d'accident du travail.
C'est une excellente comparaison.
Judas connaît les règles, il sait ce qui est juste, mais il utilise sa position de force pour étouffer Tamar et s'en laver les mains.
Sauf que Tamar refuse d'être la victime silencieuse de cette manœuvre.
Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Sa riposte est d'une audace folle. Des années plus tard, elle apprend que Judas, qui est devenu veuf entre-temps, se rend à la fête de la tonte des moutons.
Une grande fête de l'époque.
Elle enlève ses vêtements de veuvage, elle se couvre le visage d'un voile et elle s'installe à un carrefour en se faisant passer pour une prostituée.
Et le piège fonctionne. Judas ne la reconnaît pas du tout.
Il sollicite ses services. Il propose de lui envoyer un chevreau de son troupeau plus tard en guise de paiement. Mais Tamar, qui est fine stratège, elle exige un gage immédiat en attendant. Elle réclame son seau, son cordon et son bâton.
Et là, on ne parle pas de simples accessoires de mode.
Sûrement pas.
Le seau, qui était souvent porté autour du cou par un cordon, et le bâton gravé. Ce sont les équivalents antiques d'une signature légale, d'une carte d'identité biométrique et d'une carte de crédit, le tout combiné.
C'est énorme de donner ça.
Confier ces objets, c'est remettre son identité juridique complète entre les mains d'une totale inconnue.
C'est comme si aujourd'hui, pour garantir le paiement d'un taxi, un type laissait son smartphone déverrouillé avec l'application Apple Pay ouverte. C'est d'une folie totale.
Le fait que Judas accepte de s'en départir prouve à quel point ses pulsions ont totalement annihilé son bon sens. Il couche avec elle et il repart, inconscient d'avoir lui-même assuré la descendance qu'il refusait à sa belle-fille.
Et le piège se referme 3 mois plus tard, de manière magistrale.
Oh oui, le retour de bâton est violent.
La rumeur arrive aux oreilles du patriarche. Tamar, la veuve qui était censée attendre sagement dans la maison de son père, elle est enceinte. Et là, la réaction de Judas illustre le summum de l'hypocrisie humaine.
Sans le moindre procès.
Avec une sévérité implacable.
Il ordonne direct qu'on la sorte et qu'on la brûle vive.
Le type est prêt à faire exécuter une femme pour le crime de fornication, alors que c'est précisément le vice auquel il vient de s'adonner. Et cela soulève une question importante, justement. C'est ici que l'analyse du docteur Matthews met en lumière un écho littéraire absolument brillant de la part de l'auteur biblique.
Vas-y, je t'écoute.
Pendant que Tamar est conduite au supplice, elle ne hurle pas, elle ne plaide pas son innocence.
Elle reste très calme.
Elle fait simplement porter les objets à son beau-père, avec un message très précis. Elle dit « C'est de l'homme à qui appartiennent ces objets que je suis enceinte. »
Le coup de grâce.
Mais écoute bien ça. La formulation hébraïque qu'elle utilise pour dire « Examine, je te prie, à qui sont ce sceau et ce bâton », ça fait directement écho aux paroles des frères de Joseph des années auparavant.
Quand ils ont présenté la tunique ensanglantée.
Exactement. Quand ils ont dit à Jacob « Examine, je te prie, est-ce la tunique de ton fils ?»
Waouh ! C'est saisissant. Le même verbe, la même méthode de tromperie par un objet d'identification. Jacob a été détruit par la reconnaissance de la tunique, et maintenant, Judas est publiquement humilié par la reconnaissance de ses propres objets de pouvoir.
La boucle est bouclée. Le retour de flamme est parfait. Face à ces preuves irréfutables, le monde de Judas s'effondre. Et il prononce alors une phrase qui change toute la trajectoire de l'histoire. Il dit « Elle est plus juste que moi ».
Et c'est là qu'on se pose une vraie question, parce que comment peut-il associer la notion de justice à un acte de prostitution par tromperie? C'est quand même paradoxal.
C'est tout le cœur du problème, et c'est fascinant à analyser. Le mot « juste », tzadak en hébreu, dans ce contexte bien précis, ne désigne pas du tout une pureté morale immaculée ou une sainteté sans tache.
D'accord, c'est pas la morale moderne.
Pas du tout. Le docteur Matthews explique que la justice dont parle Judas fait référence à la loyauté envers les obligations relationnelles, envers l'alliance familiale.
Tamar a rempli son contrat, en gros.
Voilà. Elle a eu recours à une tromperie scandaleuse, oui, mais son but ultime était de préserver la lignée, de forcer la famille à assumer ses devoirs légaux. Elle a agi avec une détermination féroce pour la continuité de la promesse divine.
Alors que Judas, qui était censé être le garant spirituel et légal de cette promesse,
il fuyait ses responsabilités par pure lâcheté. En déclarant « Elle est plus juste que moi », Judas confesse publiquement sa faillite morale. C'est un point de rupture psychologique incroyable.
Pour la première fois dans cette famille rongée par le mensonge, enfin quelqu'un assume ses actes.
C'est le début d'une transformation pour Judas.
Et la conclusion de cet épisode sordide, elle repousse encore les limites de l'inattendu. Tamar donne naissance à des jumeaux. Et comme si le drame n'était pas suffisant, même l'accouchement se transforme en lutte de pouvoir.
Jusqu'au bout.
Le récit détaille qu'un des enfants sort une main en premier. La sage-femme, pour garantir le droit d'aînesse, qui est crucial à l'époque, on l'a vu, s'empresse de nouer un fil écarlate autour de son poignet. Ça, c'est Zéra.
Mais le bébé rétracte sa main.
Il la rentre. Et c'est son frère jumeau qui force le passage, aîné le premier. Ce jumeau qui a forcé la brèche est nommé Pérès. Un nom qui signifie, littéralement, « celui qui fait irruption ».
C'est tellement symbolique.
L'ordre établi par la nature, et même par l'intervention humaine de la sage-femme avec son fil rouge, tout ça est pulvérisé à la seconde même de la naissance.
Et si on relie ça à la vue d'ensemble, on constate que la subversion de l'ordre de naissance, c'est vraiment le motif central de tout le livre de la Genèse.
C'est vrai, hein, ça n'arrête pas.
Le plus jeune supplante continuellement l'aîné, déjouant sans cesse les attentes de la culture patriarcale. On a eu Abel préféré à Caïn, Isaac préféré à Ismaël, Jacob arrachant la bénédiction à Ésaü, Joseph dominant ses frères aînés, et maintenant Pérets supplantant Zéra.
C'est un thème constant.
Et l'analyse du docteur Matthews montre que ce n'est pas qu'une anecdote physiologique. La lignée de Pérets va traverser les siècles. Si l'on consulte la généalogie à la fin du livre de Ruth, on découvre que Pérets est l'ancêtre direct d'un certain Boaz.
Qui lui-même est l'arrière-grand-père du roi David.
Exactement. C'est ici, dans ce chapitre fait de tromperies, de prostitution déguisée et d'hypocrisie, que s'enracine la grande dynastie royale d'Israël, et ultimement la lignée messianique.
Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Pour quiconque plonge dans ces textes, il faut se rendre à l'évidence, on est aux antipodes des légendes épiques classiques.
Ah, on est très loin des héros parfaits sans reproche.
On passe d'un adolescent insupportable qui espionne ses frères à un complot fratricide converti en opportunité financière. pour aboutir à une femme acculée qui doit virtuellement se prostituer pour arracher ses droits fondamentaux à un patriarche lâche.
C'est un scénario de série noire.
Mais c'est fascinant de voir que le message central des textes ne cherche absolument jamais à blanchir ses comportements.
Jamais. Et l'enseignement profond, c'est que la machinerie de l'histoire, avec un grand H, et les grands desseins s'accomplissent bien souvent au cœur même du chaos absolu et des échecs humains les plus désastreux.
La réalisation des promesses d'avenir ne dépend pas d'un casting d'acteurs parfaits.
Parce que de tels acteurs n'existent tout simplement pas. C'est le triomphe de la providence sur le dysfonctionnement familial. Le narrateur tisse habilement deux réalités simultanées, tu vois.
Lesquelles ?
D'un côté, la liberté morale des personnages, qui choisissent consciemment la cupidité, la jalousie ou le mensonge. Et de l'autre, la souveraineté silencieuse d'un dessein divin. Un dessein qui intègre ces mêmes failles pour préserver la vie. Que ce soit par le sauvetage futur de l'Égypte face à la famine ou par la naissance chaotique de Peretz.
Ouais, tout finit par s'imbriquer. Même les éléments les plus sombres, les plus gênants. Et pour clore cette analyse, je pense qu'il suffit de s'arrêter un petit instant sur l'objet même qui a servi de détonateur à tout ce drama.
La tunique ornée.
La fameuse tunique, oui. Jacob l'avait commandée, il l'avait offerte pour élever publiquement un fils au détriment des autres. C'était un monument en tissu érigé à la gloire de son propre favoritisme et de son orgueil paternel.
Et le symbole est devenu son pire cauchemar.
Par une justice poétique terrible, ce vêtement, qui lui est revenu en lambeaux et trempé de sang, est devenu l'instrument exact de sa punition, l'objet même de son deuil insurmontable.
C'est une ironie tragique.
Quand l'être humain tente de forcer le destin en court-circuitant l'équité, les symboles mêmes de cette arrogance deviennent inéluctablement les armes de sa propre destruction.
Une leçon intemporelle.
C'est sur cette pensée que notre exploration d'aujourd'hui s'achève. La suite de l'histoire, elle nous conduira en Égypte. Là où l'héritier dépouillé de sa tunique d'orgueil devra réapprendre la vie sous un tout autre vêtement.
L'habit de prisonnier.
À très bientôt pour cette prochaine plongée passionnante dans les textes.